tout en dire.
Qu'il est nécessaire, souvent, n'est-ce pas, de faire la synthèse de ce qu'on médite, de ce qu'on sait, parce que on entend évidemment des prédications sur les sujets les plus divers, soi-même on lit la Bible, pas en différentes parties, et puis il arrive souvent que l'on n'ait pas de vue claire de l'ensemble. Alors nous allons essayer de nous représenter ce matin, aussi clairement que possible, ce qu'est cette, disons, cette réalité importante de la vie intérieure du chrétien ou vie de communion. Le chrétien, si l'on veut rapidement le définir, on dira qu'il est un pécheur repenti, chose essentielle. Et aujourd'hui, on a besoin de rappeler ça. C'est pas quelqu'un qui, avec la méchanceté de son cœur, ne se passe sans rien faire, et comme on le dit certains, baptisé de Saint-Esprit, et puis tout va bien. Non, c'est un pécheur repenti. S'il n'y a pas cela, chers amis, il n'y a point de vie chrétienne. Un pécheur repenti. Un pécheur justifié. Il ne peut pas être justifié s'il ne s'est pas repenti. Enfin, comme la doctrine est sûre, n'est-ce pas, il n'y a pas lieu, par conséquent, d'hésiter là-dessus. Un pécheur repenti, justifié, sanctifié par Jésus-Christ, car s'il a été justifié, c'est pas pour retomber dans la vie de péché, il est sanctifié par Jésus-Christ, et rempli du Saint-Esprit. Voilà où je mets, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus l'a enseigné à la fin de son ministère. Mais au début de son ministère, il a bien enseigné la nouvelle naissance. Rempli du Saint-Esprit, appelé à être saint, c'est-à-dire consacré, vraiment consacré, et ce chrétien ne peut vivre sa vie nouvelle, puisqu'il est introduit dans une vie nouvelle, que dans la communion maintenue avec Jésus-Christ. Je dis bien maintenu. C'est quelque chose qui domine dans le mot de Jésus, demeurez, demeurez, maintenez-vous. Il ne s'agit pas d'être flambant lors du premier amour, et puis ensuite, n'est-ce pas, de se laisser aller, se maintenir dans la communion avec Jésus-Christ. Demeurez en Christ pour que Christ demeure en lui. Dimanche dernier, nos amis de Villeneuve, là, m'ont demandé justement des explications sur ce que pouvait être demeurer en Christ. Alors, demeurer en Christ. Alors, je leur ai expliqué, et ils ont compris le corollaire qui se présente aussitôt, et moi, je demeure en vous. Enfin, il est évident que Christ ne peut pas demeurer en quelqu'un si ce quelqu'un ne vient pas à lui, n'est-ce pas, pour demeurer dans son amour. Cela se nomme la communion. Et cette communion n'est pas faite comme malheureusement d'aucuns l'ont pensé, ou plutôt, n'est-ce pas, selon la formule de certains qui se sont contentés de cela, la communion n'est pas faite de sentiments, d'émotion, d'enthousiasme, d'idéal, pas du tout. Là, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de saintes émotions, mais je dis, n'est-ce pas, si l'on recherche les émotions courantes, n'est-ce pas, les émotions dont beaucoup sont friands, les enthousiasmes, l'idéal, qu'on n'appelle pas ça la communion. La communion consiste en une union intime et réelle, c'est une réalité de l'esprit. Les réalités de l'esprit sont plus puissantes que les réalités matérielles. Elle consiste en une union intime avec le Christ, et c'est pourquoi j'aime dire souvent le salut, c'est une personne. Le salut, c'est une personne. La sanctification, c'est une personne. L'union avec cette personne, la personne de Christ, est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Cherchez pas autre chose de la part de l'homme, la foi. Mais attention, n'est-ce pas ? Une foi qui ne reste pas végétative, n'est-ce pas? Et l'amour, alors l'amour, mais l'amour, les textes nous montrent bien que l'amour est appelé par la foi. Donc en premier, c'est la foi d'abord, et l'amour vient. Dans la fin de ses enseignements, le Seigneur Jésus a parlé d'amour. Il a dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera, n'est-ce pas? Celui qui m'aime, mon Père, il a parlé d'amour. Celui qui m'aime gardera les commandements. Voyez-vous, il ne parlait plus de foi à ce moment-là. Et pourquoi ne parlait-il plus de foi? Parce que il en avait suffisamment parlé précédemment, n'est-ce pas? Et qu'il considérait qu'il s'adressait à des gens qui exerçaient la foi et qui allaient donc, n'est-ce pas, entrer, œuvrer selon l'amour. Le Christ ressuscité, glorifié, habite dans l'âme du croyant, du chrétien, avec toute la conscience de Dieu, avec toute la prescience de Dieu, avec toute l'autorité, toute la puissance, toute la sainteté, la vérité et la victoire de Christ. Christ ne vient pas les mains vides pour entrer. Si vous demeurez, celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Et quand il vient demeurer, il ne vient pas les mains vides. Il ne vient pas, autrement dit, n'est-ce pas, dépouillé. Il vient avec ses œuvres, il vient avec sa rédemption, il vient avec sa victoire. Ça. Il vient avec tout cela. Et pourquoi faire tout cela? Pour le mettre en œuvre, n'est-ce pas, à partir de celui chez qui il établit sa demeure. Il vient avec tout cela. Alors c'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Ne pas rester sur l'idée que nous avons à imiter le Seigneur Jésus en ce sens que nous aurions nous aussi, comme il l'a fait, à être victorieux. Non. Nous avons à nous servir de la victoire du Seigneur. Nous avons à être ceux qui, s'étant offerts, ayant demeuré en lui, voulant nous maintenir en lui, n'est-ce pas, le laissons exploiter sa victoire à partir de nous. C'est tout différent. Ça, c'est tout différent. C'est pour ça que cette parole de Paul a une valeur considérable. Ce n'est plus moi qui vis. Ça, si c'était moi qui vivais, je vis bien selon la chair. Évidemment, je vis avec mon corps. Pas je mange, je dors, etc. Bon, mais en réalité, n'est-ce pas, devant la grande réalité de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'était Paul qui vive, ben Paul ferait encore toutes sortes de choses comme Saul de Tarse les faisait, n'est-ce pas? Tandis que si ce n'est plus Paul qui vit, si c'est Christ qui vit, Christ vit selon ses œuvres, selon sa sainteté, avec la puissance qu'il a obtenue sur l'ennemi, puissance décisive qui s'appelle une victoire, hein, il vit avec cette victoire. Nous allons lire maintenant des textes que vous connaissez bien, mais qu'il est indispensable de relire. D'abord, Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1. Chapitre 1er, verset 19, dans les Éphésiens. Il, c'est Dieu ici, n'est-ce pas? Il, c'est Dieu. Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes amis, ça vaut son pesant d'or, comme on disait, n'est-ce pas? C'est des textes sur lesquels on ne peut pas passer comme ça. Je parlais de méditation, n'est-ce pas? Comment voulez-vous, n'est-ce pas, passer sur un texte comme ça? C'est passer sur toute une région magnifique de la belle réalité de Dieu. Enfin, c'est grand, c'est énorme, ça nous dépasse ce qui est dit là, bien sûr. Il nous faut le Saint-Esprit pour retirer quelque chose de ça. Il nous faut être comme ce scribe, n'est-ce pas, instruit des choses du royaume des cieux et qui tire de bonnes choses du trésor. C'est un trésor, il faut, n'est-ce pas, imaginer que nous soyons devant un vaste coffre-fort rempli de pierreries, de bijoux, n'est-ce pas? Bon, eh bien, nous ne saurions plus où mettre la main, n'est-ce pas? Il faut commencer par un endroit, il faut regarder en détail. Mais ça, c'est magnifique, regardez ça, comme ça a été ciselé, tout ça. N'est-ce pas? C'est un trésor qui est devant nous, c'est un trésor. Alors, ici, apparaît cette notion si essentielle, si magnifique de la plénitude. Mais cette plénitude dont il s'agit ici n'est pas à mettre en synonymie avec la plénitude du Saint-Esprit. Ah, ça, chers amis, n'est-ce pas, celui qui dit plénitude de Dieu, c'est la même chose que plénitude du Saint-Esprit. Il a vu très rapidement les choses, beaucoup trop rapidement, n'est-ce pas? Il les a survolées à 8000 mètres d'altitude. C'est pas la même chose. Grosso modo, je ne veux pas entrer dans une longue explication, mais je vous dirai ceci, c'est que la foi, évidemment, est le moyen. Vous savez, le salut est obtenu par le moyen de la foi. La grâce est obtenue par le moyen de la foi. Bon, alors, la foi s'exerce. Elle s'exerce comme une violence. Ça, avec force, avec hardiesse, avec décision, bien, avec un grand désir. La foi s'exerce. La conversion vient. La grâce du pardon des péchés, la conversion vient, c'est très bien. Ensuite, doit venir, devrait venir tout de suite, le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a pas raison d'attendre, ça, n'est-ce pas? Nous voyons, en général, n'est-ce pas, dans les exemples des épîtres ou des actes, nous voyons que le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, est une chose qui, s'il y a vraiment une foi entière et abandon au Seigneur, une chose qui vient tout de suite. Ça vient donc à l'entrée de l'expérience chrétienne. Hein? Mais la plénitude du Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, et je suppose cette plénitude maintenue, elle aussi, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'est pas une science infuse. Elle n'est pas une connaissance. Bon, alors, n'est-ce pas, il a donné le Sauveur lui-même, n'est-ce pas, son propre fils, comme tête du corps, chef de l'Église. Et alors, il a la plénitude de Dieu, lui, il l'apporte en sa personne, mais comme il est la tête, il répand cette plénitude dans son corps. Et c'est pour ça qu'il est dit, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. S'il est la tête, il ne conserve pas. Notre tête ne conserve pas le sang, par exemple. En ça, nous aurions le sang porté à la tête. C'est pas bon, n'est-ce pas? Le sang va par tout le corps. La tête a un cerveau. Elle centralise l'innervation du corps, n'est-ce pas? Bon, mais pourquoi? Pour elle-même, mais non pas pour le corps. Pour le corps. Si bien que la plénitude de Dieu, qui, bien sûr, est dans la personne de Christ, cette plénitude de Dieu est là pour s'étendre, pour gagner le corps entier, donc les membres du corps que sont les chrétiens. Regardons toujours Éphésiens 3, 19. Là, j'ai déjà lu ce beau passage. Vous savez, le passage de Éphésiens 3, 14 à 21, n'est-ce pas, encadrez-le. Hein? C'est un de ces passages extraordinaires et magnifiques de l'Écriture. Il faut y revenir souvent. Vous pouvez méditer 1000 fois, 10 000 fois sur un tel passage. Vous ne l'aurez jamais épuisé. Il vous dira toujours quelque chose. Mais prenons simplement dans ce passage, pour ne pas le reprendre tout entier, le verset 19. Alors là, c'est une prière, n'est-ce pas, que fait l'apôtre Paul, afin que vous puissiez, alors je prends verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas donc bien ceci? C'est que ce n'est pas d'un coup que vous serez rempli de la plénitude de Dieu, n'est-ce pas? Jusque-là, il faut que tout aille, que tout concourt, que vous progressiez de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, pour arriver à être vous-même rempli tellement de Christ que vous serez rempli de la plénitude de Dieu qui est apportée par Christ. N'est-ce pas? Voilà quelque chose d'important, excessivement important. La vocation chrétienne, c'est cela, sur la terre. Après, la vocation devient céleste et l'héritage, n'est-ce pas, c'est l'héritage. Bon, mais nous parlons de la terre. Nous allons voir aussi Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, en Christ. Dieu l'a voulu. Il a la plénitude de la divinité, la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que dans le Christ, il ne manque rien de ce qui est de la personne de Dieu. Il ne manque rien. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, tiens, Dieu, nous connaissons les attributs de Dieu, nous connaissons les perfections de Dieu, n'est-ce pas, etc. Bon, Christ, c'est très haut, c'est très grand, mais c'est à l'étage inférieur, c'est un peu moins. Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'est Dieu, Christ l'est. N'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Par conséquent, vous savez, quand on en est encore à annoncer sur le point de savoir ce que veut dire la divinité du Seigneur Jésus, bah écoutez, non, on sait que véritablement, alors là, on a une foi embarrassée, n'est-ce pas, comme quelquefois on a l'estomac embarrassé, bah là, c'est qu'on a une foi embarrassée véritablement par toutes sortes de raisonnements, il faut s'humilier quand c'est comme ça, il n'y a pas d'autre chose, n'est-ce pas, parce que la foi, n'est-ce pas, ne raisonne pas, et quand nous avons des textes comme ça, Dieu a voulu que toute plénitude, la plénitude de Dieu, habitât en lui. Conséquent, en Christ, il ne manque rien. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, n'est-ce pas, que Christ était là, dans la communion, avec toutes les perfections de Dieu, dont j'ai nommé certaines, la puissance, l'autorité, la sainteté, la vérité, et la victoire remportée, bien sûr, sur la terre. Et puis toujours dans Colossiens 2, 9, même chose encore, vous voyez, n'est-ce pas, combien Paul en avait la conscience de cette réalité, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce que, n'est-ce pas, pourquoi Paul dit-il ça, corporellement, ce mot-là? Eh bien, c'est que nous pourrions céder à toujours, n'est-ce pas, une petite tendance d'analyse avec notre esprit humain. C'est fâcheux, ça. Mais nous pourrions céder alors. Nous pourrions nous dire, ben, bien sûr, n'est-ce pas, dans le Christ, il y a la nature humaine, il y a la nature divine. Alors, Christ, qui est la parole de Dieu, faite chair, il est un être divin, bien sûr, et lui et Dieu sont un, n'est-ce pas? Par conséquent, on sait bien que dans la nature divine, et par la nature divine de Christ, il y a tout ce qui est de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est là, entièrement, n'est-ce pas? Il y a la plénitude de Dieu. Mais Paul nous dit, attention, attention, ne disséquez pas, ne séparez pas la nature divine dans le Seigneur de la nature humaine qu'il a prise, parce qu'il les a unis pour l'éternité, ne le séparez pas. Et la plénitude de Dieu, elle n'est pas restée le propre de sa nature divine, elle est dans toute sa personne, qui comprend aussi bien la nature humaine. C'est pourquoi elle nous dit la plénitude, mais corporellement, elle est là. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas comme c'est important. Alors, cette plénitude de Dieu, c'est, je vous le répète, la chose vers laquelle nous sommes en marche, n'est-ce pas? Et la vie intérieure, si elle est maintenue et développée, va nous conduire nécessairement à la plénitude de Dieu, c'est-à-dire à la possession. Non pas par un revêtement de la chair, mais la possession de la plénitude de Dieu, des perfections du Christ et de la victoire du Christ. Les perfections, ce serait encore insuffisant, n'est-ce pas, parce que, bien que ce soit l'absolu, parce que il y a quelque chose d'acquis par Christ, c'est sa victoire sur le péché et sa victoire sur la mort. Eh bien, cette victoire, elle est là. Elle fait partie de la plénitude, n'est-ce pas? Et cela, n'est-ce pas, va s'ancrer en nous, s'établir en nous, et prendre en nous, n'est-ce pas, la même suprématie que dans la personne de Christ. La plénitude qui est dans la tête s'étend aux membres de Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? N'est-ce pas? Les perfections invisibles, plénitude de Dieu, n'est-ce pas, ne ramenons ça à quelque chose de clair pour nous. Toutes les perfections de Dieu, les perfections de Dieu, qui sont les perfections de Christ, plus la victoire de Christ sur le péché et sur la mort. Voilà, n'est-ce pas, cette plénitude de Dieu que nous allons acquérir, n'est-ce pas, par le Christ en nous. En somme, vous voyez, je reprends, n'est-ce pas, la carrière la carrière du chrétien. Au début, chrétien, nous avons dit, c'est un pécheur repenti. Bien. Il entend l'évangile, il exerce la foi. La foi, n'est-ce pas, se met en mouvement, en lui, n'est-ce pas, et il exerce la foi. Bon, il croit, il saisit. Il se sent coupable. Il se repent. Il reçoit le pardon de ses péchés, la grâce, il est justifié, il est sanctifié, n'est-ce pas? Ça, la foi en est le moyen, n'est-ce pas? La foi en est le moyen. Puis, l'amour. Alors, l'amour arrive. L'amour se présente, et la plénitude de Dieu vient, n'est-ce pas? Elle aussi se présente progressivement, n'est-ce pas? Et voilà l'acquisition, alors, qui est faite au cours de la vie chrétienne. Ainsi, lorsque la communion est maintenue et même développée, Christ est présent dans toutes les manifestations de notre activité, dans tous les lieux où nous pouvons nous rendre, dans notre maison, dans notre travail. Si vous allez au travail, il y en a qui travaillent tout de même, pas tout le monde n'est pas... hein? Bon, alors, si vous allez à votre travail... Eh bien, il faut que vous sachiez que Christ, vous ne l'avez pas laissé à la maison. Vous ne vous êtes pas, n'est-ce pas, dépouillé, ou vous n'avez pas dit à Christ, je m'en vais maintenant à mon bureau, nous nous retrouverons tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous maintenez la communion, vous allez transporter Christ. Et le prophète Ésaïe avait eu une image magnifique, très belle. Faut savoir goûter les beautés de la Bible. Il avait dit, n'est-ce pas, qu'ils sont bons les pieds de ceux qui portent les vases de l'Éternel. Vous savez que les vases, ce sont les richesses. Qu'ils sont bons les pieds. L'Éternel est devant eux, marche devant eux. Et l'Éternel est encore devant eux, derrière eux. N'est-ce pas, il marche devant, il marche derrière, qu'ils sont bons les pieds. Ne touchez rien d'impur. Ah, ça c'est le cri du prophète. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Chers amis, comme nous avons à méditer, à réfléchir sur tout ça, n'est-ce pas? Attention, notre vie courante légère, notre vie courante qui a si vite fait de reprendre la teinte, la couleur des autres, des hommes inconvertis au milieu desquels nous avons à évoluer, n'est-ce pas? Si je suis l'homme des béatitudes, quand je suis tout seul chez moi, dans ma chambre, n'est-ce pas? Et si dès que je suis dans la société, parce que j'y vis encore, hein, alors à ce moment-là, n'est-ce pas, le vieil homme reprend le dessus parce qu'il est appelé par le contact des autres. Mais alors, chers amis, je ne peux pas progresser comme ça. Il faut que, sans être un mystique, je n'ai pas besoin de se donner une attitude quelconque, n'est-ce pas, mais je reste le temple du Saint-Esprit partout. Il est bien dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Moi, je l'ai lu quelque part, n'est-ce pas? Bon, eh bien, si c'est vrai, n'est-ce pas, on ne peut pas être tout de suite le temple et puis tout à l'heure ne plus l'être. Enfin, il faut le rester. On ne peut que le rester. Alors, avec la communion, n'est-ce pas, maintenu et développé, Christ est présent dans toutes les manifestations, dans tous nos allées et venues. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos luttes. Et il est toujours prêt, si nous le laissons faire, à manifester sa victoire. Il ne peut pas faire autre chose, Christ. Il n'a jamais fait autre chose que de manifester sa victoire, puisqu'il n'a pas eu de part au péché. Il a fait toujours la volonté de Dieu. Il continue. Seulement, n'est-ce pas, il s'agit de savoir si nous le laissons vivre en nous, ou si nous reprenons, n'est-ce pas, nous fermons la porte de notre temple intérieur et puis nous reprenons la direction des affaires de notre vie. Ça ne va plus. Nous allons lire un texte dans les Hébreux, chapitre 2, versets 17 et 18. Il s'agit toujours ici du Christ. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et ici, dans le contexte, ses frères, c'est tous les hommes. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parce qu'il a participé à la chair et au sang, n'est-ce pas, d'Adam. Alors, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, n'est-ce pas, disons bien, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ah, c'est nous qui sommes tentés, n'est-ce pas? Et il est là, et s'il est là à pied d'œuvre, s'il est là vraiment, n'est-ce pas, dans l'être intérieur de son disciple, eh bien, c'est lui qui va secourir. Autrement dit, n'est-ce pas, il va secourir, en ce sens qu'il va, n'est-ce pas, communiquer la force, n'est-ce pas? Et si alors, librement, par la foi, on le laisse faire, on l'écoute, je vous dis, c'est sa victoire qui va immédiatement se présenter. Christ sur la terre a vraiment pénétré la vie de l'homme. Il a sondé les pensées de l'homme, les pensées humaines, il les connaissait plus d'une fois, n'est-ce pas? Il savait ce qui était dans l'homme. Oh, vous savez, on parle aujourd'hui d'études psychologiques. Le Seigneur Jésus a fait des études psychologiques sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Il savait ce qui était dans l'homme, n'est-ce pas? Il connaissait les faiblesses de ses apôtres, par exemple, n'est-ce pas? Il les voyait là se mettre à 500 mètres, là, et puis alors, il était en train de parler entre eux. Le maître est un peu loin, bon, il n'entend pas ce qu'on dit. Alors, qui va être le plus grand parmi nous, hein? Oh, il faut bien penser tout de même dans les siècles à venir à un pape, n'est-ce pas? Alors, qui va être pape? Et c'était justement Pierre, n'est-ce pas? Peut-être qu'il en avait le plus envie. Alors, qui va être le plus grand parmi nous? Et puis alors, le maître, tout doucement, s'approchait du groupe, là. C'est sur nous. Ah, on reprend, n'est-ce pas? Eh oui, c'était ça, il connaissait tout ça, il connaissait toutes ses faiblesses, n'est-ce pas? On reprend, n'est-ce pas, un petit air sain, n'est-ce pas? Ça ne m'y touche, n'est-ce pas? Alors le maître arrive. De quoi parliez-vous entre vous? Embêtant, ça, d'obliger de dire cela. De quoi parliez-vous? Eh bien, moi, je vais vous dire que celui qui veut être le plus grand parmi vous, soit le plus petit. Oh là 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 là, n'est-ce pas? Voyez-vous, n'est-ce pas? Il connaissait toutes ces choses. Combien d'expériences le Seigneur n'a-t-il pas faites avec ses disciples? Ils lui ont servi. Ils lui ont servi de matière expérimentale, si je puis dire, n'est-ce pas? C'était l'homme. S'ils avaient été baptisés Saint-Esprit trop tôt, ils n'auraient pas servi comme cela, n'est-ce pas? Alors, il connaît les aspirations humaines, les pensées humaines, les faiblesses, il connaît nos faiblesses, il connaît les souffrances de l'homme, et à l'exception du péché, en ce qui le concerne lui, il a participé à la vie de l'homme de la chute, une chair semblable à celle du péché. Il n'a pas participé à la vie de l'homme d'avant la chute, mais la vie de l'homme telle qu'il était sur la terre. Il a été tenté lui-même au cours de ses souffrances et de ses épreuves, car quand nous lisons bien, nous voyons qu'il a eu des épreuves, lui. Il a été tenté dans tout cela, n'est-ce pas? Évidemment, il a été tenté à la manière, si vous voulez, du flot qui, un jour de tempête, se rue sur la falaise, n'est-ce pas? Et puis, pff, un grand bruit, là, n'est-ce pas? Puis la falaise, elle ne bouge pas, évidemment, n'est-ce pas? Elle est là, n'est-ce pas? Elle peut attendre le flot, elle ne bouge pas. Elle a été le Christ, n'est-ce pas, dans sa vie personnel, mais il n'en a pas moins connu nos souffrances et ce qui nous assaille. Il sait ce qui nous assaille. Et il peut secourir son disciple du dedans. Pas le secourir de l'extérieur, le secourir du dedans. Parce que il est, lui, la cause intérieure, la cause de la vie intérieure. Il est l'animateur de cette vie intérieure. Il en est le guide. Il en est le guide. Et ceci, il l'a dit, n'est-ce pas? Il en est le guide. Il n'a pas exprimé comme je l'exprime. Il n'a pas dit « je suis le guide ». Il a bien dit qu'il était le directeur. Bon, il était le conseiller. Bon, mais il n'a pas dit « je suis le guide ». Mais il a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Or, c'est pas la peine d'essayer de monter au Mont Blanc sans le guide. Vous n'y arriverez pas, n'est-ce pas? « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il a dit ça dans la belle instruction du cep et des sarments. Les sarments qui sont branchés sur le cep et qui participent à la vie du cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, avec lui, tout sera possible. Étant sur la terre, rien n'est venu troubler, interrompre la puissante et constante relation intime avec le Père Céleste, du Christ avec le Père, du Fils avec le Père. Nous pourrions en avoir la confirmation dans Jean 10, verset 38, verset 37 et 38. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez point, croyez à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Et ça n'a souffert aucune imperfection, cette relation particulière, magnifique avec le Père, est restée dans la perfection, n'est-ce pas? Cela n'a souffert aucun obstacle, aucun arrêt, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur a voulu dire quand il a affirmé « Satan n'a rien en moi ». Satan avec sa coupure, Satan avec le trouble qu'il veut introduire toujours entre Dieu, n'est-ce pas, et celui qui vit avec Dieu, n'est-ce pas, eh bien, Satan n'a rien en moi. Alors, le lien du Fils et du Père a pu, n'est-ce pas, surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles, il est resté intact, puissant, vivifiant. Et puisque cela est, je parle du Christ sur la terre, puisque sur la terre, n'est-ce pas, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, il a été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, il les connaît, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est dit que c'est à lui que le jugement est remis, parce qu'il est le Fils de l'homme, justement. Il est venu, n'est-ce pas, dans la masse humaine, et il a fait, là, toutes les expériences nécessaires. Alors, il est le modèle de la vie intérieure sur la terre, n'est-ce pas? Il peut dire pour lui, le Père et moi, nous sommes un. Il peut dire aussi, je ne suis pas seul. Le Père est toujours avec moi. Et il peut nous dire à nous, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alors, si je suis en vous, pas besoin de... J'ai vaincu le monde. Je suis là. Je suis là. Alors, pourquoi vous effarer? Pourquoi la peur, n'est-ce pas, ou l'égarement, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur est donc la rosée vivifiante, comme il est appelé par le prophète, la rosée vivifiante qui inonde l'âme de la présence et de la vie de Dieu. Il éclaire la route, il a parlé de lumière, il éclaire la route de ses fidèles, tout comme autrefois, dans les marches du peuple d'Israël, dans le désert, les marches nocturnes, il y avait une colonne de feu qui allait depuis le début jusqu'à la fin, et qui... Alors, voyez cette belle image, ça a été une réalité, ça. Eh bien, cette belle image, Christ est ainsi. Marcher à la lumière de Christ, n'est-ce pas? Il éclaire la route de ses fidèles, et que nous demande-t-il? D'avoir vraiment renoncé à nous, c'est-à-dire renoncer à ce que nous étions. Bien sûr, si nous ne renonçons pas à ce que nous étions, si nous voulons que ça reste soit pour une partie, soit pour le tout, eh bien, il est évident que nous fermons la porte à la communion. Alors, avoir renoncé, porter sa croix, c'est-à-dire avoir toujours la marque de la crucifixion de Jésus, porter sa croix, le suivre, le suivre, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Alors, le suivre, dans la même soumission à Dieu, participer à la vie de l'esprit, n'est-ce pas, comme il y a participé, n'est-ce pas, c'est ça le suivre. Le suivre, ça ne veut pas dire nécessairement, tiens, comment a-t-il fait? Il a fait ceci dans cette circonstance. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près la même chose. Non, le suivre, c'est l'avoir en soi pour, précisément, qu'il soit le guide de la vie intérieure. C'est ça que ça veut dire, le suivre, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas le suivre avec nos pieds maintenant. Nous ne pouvons pas faire non plus l'imitation. Il y a un livre assez connu qui s'appelle, et ancien, s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des pensées vraiment étonnantes et bonnes dans ce livre. Mais il donne à côté de la carte, si je puis dire, ce livre. Parce que personne, c'est écrit par un moine, Thomas à Quimpis, on pense que c'est lui l'auteur. Enfin, bon, mais personne ne peut, même quand on est moine, on peut y arriver un peu mieux peut-être que les autres, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas suivre de soi-même, imiter le Christ. Et il ne s'agissait pas de l'imiter comme ça, il s'agissait de le suivre, c'est-à-dire en l'ayant comme guide de sa vie intérieure, n'est-ce pas? Il est dans le dedans et nous le suivons parce que, n'est-ce pas, il va tout de suite, devant une situation, nous dire « Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je fais. » Alors il le fait, fais-le Seigneur. Bon, alors il le fait, n'est-ce pas? Il le fait. Voilà comment, n'est-ce pas, nous pouvons imiter Christ ou le suivre. Dans la communion, Christ anéantit en nous aussi tous les éléments de mort. Il peut subsister dans un chrétien, la preuve c'est que Paul voit même un chrétien charnel, avec toutes sortes de choses, des jalousies, tout ça. Pas beau ça, hein? C'est bizarre ça, un chrétien charnel. Pourtant, il le reconnaît tout de même comme un chrétien, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, il y a des éléments de mort qui peuvent rester là, n'est-ce pas, des lambeaux de chair. Alors ça, le Seigneur... Il les évince, n'est-ce pas? Il anéantit ces éléments de mort, et ça s'appelle les œuvres mortes. Et chers amis, il y a des œuvres mortes qui sont assez plaisantes vues du dehors. Et alors, il y a des chrétiens, n'est-ce pas, qui sont... Ces chrétiens-là, quand ils parlent comme ça, ils montrent qu'ils sont tentés, déjà. Ils sont amorcés. Ils disent, oh, ben, ça c'est pas péché, ça c'est pas mal. Oh, on peut bien faire ça. Évidemment, il y a des choses qui sont pas mal, qui sont pas péché, absolument. Mais si tu t'amuses à meubler ta vie de toutes sortes de choses vaines, inutiles, n'est-ce pas, et que tu empêches ta vie intérieure de se développer, tes relations avec le Seigneur, n'est-ce pas, de se fortifier, n'est-ce pas, si tes pensées sont occupées à toutes sortes de futilités qui seront, oh c'est moral, c'est assez moral, n'est-ce pas, c'est moral. Oui, mais tu es occupé toujours à ça. Alors tu restes dans les œuvres mortes, des œuvres qui n'ont rien pour la vie éternelle. Enfin, même si c'est pas immoral, même si c'est pas le péché, tu restes dans ces œuvres-là et tu ne te développes pas et tu ne grandis pas et au contraire tu t'étioles. Voilà le danger, n'est-ce pas? Alors dire oh ça c'est pas péché. Je vous dis ça c'est le langage de quelqu'un qui est déjà avancé par les convoitises. Alors ça c'est extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Extrêmement dangereux. C'est pas mal de faire un tas de choses, d'aller, etc. Mais on n'y va pas, parce que c'est du temps perdu, d'abord. Et puis c'est vain. On va laisser accrocher encore sa pensée à toutes sortes de choses vaines, inutiles. Ah, chers amis, les œuvres mortes, les germes de la mort, puisque Christ est une rosée vivifiante. Une rosée vivifiante, il apporte le renouveau et la puissance d'une vie de résurrection. Celui qui croit en moi vivra même que, s'il était mort. Alors il vivra, étant présent encore sur la terre, et s'il cesse d'être présent sur la terre, par la mort du corps, il vit encore. Il vit toujours. Il continue de vivre, sa vie ne s'arrête pas. Celui qui croit en moi, mais alors de cette foi dont parlait le Christ, hein. Une foi violente, n'est-ce pas? Une foi hardie, une foi tenace. Alors, celui qui croit en moi vivra, il vit. Et si son corps meurt, ça n'a pas importance. Continue de vivre. La communion, Christ anéantit tout ce qui touche à la mort. Alors, nous allons arriver maintenant vraiment à notre conclusion et l'exhortation finale de cette étude sera celle-ci. Il y a des gens qui parlent de pèlerinage. Moi, je vais vous proposer un vrai pèlerinage. C'est le pèlerinage des quatre montagnes. Quatre montagnes. La première, c'est la montagne des béatitudes. Montons. On chante quelquefois, je veux monter sur la montagne, n'est-ce pas? Les jeunes chantent ça, je veux monter. Bon, eh bien, montons sur la montagne, entendu, n'est-ce pas? Montons-y. La première sera la montagne des béatitudes. Là, nous allons entendre ce beau sermon. Ah, le sermon, c'est la charte de l'Église, a-t-on dit. Comme il est précieux pour la vie intérieure. La seconde montagne, ce sera celle de la transfiguration. Nous allons monter avec le Seigneur. Il y en a trois qui ont monté. Pierre, Jacques et Jean. Il y en a trois qui ont suivi le Seigneur, là. Alors, la montagne de la transfiguration, là, nous allons contempler le Seigneur. le contempler. Nous avons parlé de contemplation. Nous allons le contempler dans sa beauté, dans ses perfections. Ah, ça va être vraiment une minute. Pierre en a gardé, lui, un souvenir inoubliable. Ça l'a marqué. Puis, nous aurons une troisième montagne, celle du calvaire, Golgotha. Nous monterons aussi là, à cette montagne, pour y voir le Christ sur la croix. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de ne pas oublier ça. La preuve, c'est que, n'est-ce pas, quand nous prenons la Sainte Cène, nous annonçons sa mort, dit l'apôtre Paul, annonçons sa mort. Alors, nous allons là pour savoir que nous vivons dans le renoncement, que nous sommes ceux qui portons la croix. Allons aussi à la montagne du calvaire. Et puis, la quatrième montagne, qu'il faut mettre en dernier, c'est celle qui vient à la fin, c'est le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, d'où le Seigneur a quitté la terre pour les airs. Alors, il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, il est monté, mais vous êtes assis avec lui dans les célestes. Alors, vous êtes monté aussi. C'est la montagne, n'est-ce pas, des Oliviers, le mont des Oliviers, où d'où le Seigneur est parti. Alors, nous sommes partis avec lui là, nous nous sommes échappés. Et en esprit, nous sommes assis avec lui dans les célestes. Les quatre montagnes, elles nous sont nécessaires, n'est-ce pas? Ces quatre montagnes. Eh bien, c'est de ce beau pèlerinage, fait et refait constamment, que découlera, en somme, notre vie intérieure. Amen. Amen.